Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seydoudia, bonjour. Au Burkina Faso, la justice a condamné mardi à 20 ans de prison deux djihadistes burkinabés. Notre correspondant Kader Traoré nous donnera les détails. La Guinée a annoncé hier le renforcement des contrôles sanitaires aux frontières, le port obligatoire du masque et la fermeture des boîtes de nuit et d'autres lieux de loisirs très fréquentés afin de lutter contre l'épidémie de COVID-19. À situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles appliquées avec courage, détermination et la plus grande fermeté, a déclaré le président Alpha Condé, selon un communiqué rendant compte du Conseil des ministres. Au Cameroun, l'ONG Human Rights Watch a dit hier que deux femmes transgenres camerounaises ont été passées à tabac et menacées de mort dimanche à Douala, la capitale économique. Shakiro, très connue sur les réseaux sociaux au Cameroun, et Patricia ont été tirées de force d'un taxi par leurs agresseurs qui ont fui à l'arrivée des gendarmes 30 minutes après. Elles avaient été remises en liberté provisoire mi-juillet après avoir été reconnues coupables notamment de tentatives d'homosexualité. Les troupes éthiopiennes et érythréennes ont violé des centaines de femmes et filles dans la région en guerre du Tigré, imposant à certaines victimes esclavage sexuel et mutilation, selon un rapport d'Amnesty International publié ce mercredi. Le rapport, établi à partir d'entretiens avec 63 victimes, documente des exactions pour lesquelles une enquête a été ouverte par les autorités éthiopiennes, avec à ce jour au moins 3 soldats condamnés pour viol et 25 autres poursuivis pour violences sexuelles et viol. La secrétaire générale de l'ONG, Agnès Callamard, a dénoncé l'utilisation du viol et de la violence comme arme de guerre ainsi que de possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Au moins 42 personnes, dont 17 civils et 25 militaires, ont perdu la vie dans les incendies qui ravagent le nord de l'Algérie, notamment en Kabylie, ont indiqué hier les autorités, évoquant des feux d'origine criminelle attisés par un épisode de canicule. Rida Farage Freitas, chef de cabinet d'un des deux vice-premiers ministres de Libye, a été enlevé la semaine dernière dans la capitale Tripoli par des hommes armés, a rapporté l'ONU mardi soir, en se disant profondément préoccupé par ce rapt. L'OMS a exhorté hier les 20 dirigeants qui ont le pouvoir de renverser le déséquilibre mondial honteux en matière d'accès aux vaccins anti-COVID-19 à intervenir pour inverser la tendance avant octobre. L'appel a été lancé par l'officiel Bruce Aylward lors d'une interaction en direct sur les médias sociaux de l'OMS, pensant à des chefs d'entreprise et à des chefs d'État. La flambée de l'épidémie de COVID-19 provoquée par le variant Delta alimente de nouveau la controverse politique autour du masque aux États-Unis, certains gouverneurs s'opposant à toute mesure visant à le rendre obligatoire malgré les recommandations des autorités sanitaires. Les talibans se sont emparés dans la nuit de la ville de Faizabad, dans l'extrême nord-est de l'Afghanistan. La 9e capitale provinciale a tombé entre leurs mains en moins d'une semaine, a-t-on appris ce mercredi auprès d'un député local. Le président Ashraf Ghani s'est rendu aujourd'hui à Mazar-i-Sharif pour remobiliser les opposants aux talibans et tenter de coordonner la riposte. « Je ne regrette pas ma décision de quitter l'Afghanistan », a assuré mardi le président américain Joe Biden. « Les Afghans doivent avoir la volonté de se battre et doivent se battre pour eux-mêmes, pour leur nation. Les talibans ont lancé leur offensive actuelle au début du retrait final des forces américaines et étrangères » qui doit être achevé d'ici au 31 août. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. La suite de nos informations. Au Burkina Faso, deux prévenus pour des faits de terrorisme qui comparaissaient devant le tribunal de grande instance Ouagadou ont été reconnus coupables hier et condamnés à 20 ans de prison. C'est lundi qu'ont débuté les tout premiers procès pour des faits de terrorisme au Burkina Faso. Au total, 10 prévenus doivent comparaître d'ici à vendredi. Ils sont accusés entre autres d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, de dégradation de biens, de détention illégale d'armes à feu et de munitions. De Ouagadougou, notre correspondant Kader Traoré.
Au deuxième jour de ce procès, Adama Nakanabo dit Abou Farid, orpailleur de son état, et Abdoulaye Diko dit Abou Nidal, éleveur de profession, étaient à la barre de la chambre correctionnelle spécialisée dans la répression des actes terroristes. Devant le parquet, il est ressorti qu'Adama Diko, célibataire et père de 4 enfants, partait auprès du groupe terroriste d'Ansarul Islam dans le village d'Ariel au nord du Burkina. C'est ainsi qu'il a fortifié sa foi religieuse et rejoint l'équipe du prédicateur islamique Malam Diko. Après avoir passé 8 mois au sein du groupe terroriste, l'attaque de l'école primaire d'Ariel fut son baptême du feu. À la barre, cet homme ne nie pas les faits d'appartenir à une association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, de dégradation des biens, de détention illégale d'armes à feu et de munitions. Par contre, il a refusé d'admettre l'infraction relative au vol. Adama Nakanabo a aussi souligné qu'il n'aime pas les Kogolewego parce qu'ils détiennent des armes comme eux. Ce fanatique religieux dit qu'il pensait qu'après le jugement, il serait tué. Le deuxième prévenu, Abdoulaye Diko dit Abou Nidal, dira à la barre qu'il a vendu un taureau pour s'acheter une Kalachnikov. Lui, tout comme son acolyte, ont suivi des cours de tir à l'arme dans le village d'Ariel, dans la province du Soum. Il a aussi reconnu les faits. Les deux prévenus ont affirmé n'avoir jamais vu leur leader, Malam Diko. Les deux accusés ont été jugés coupables et ont tous écopé de 20 ans de prison ferme et d'une période de 15 ans de sûreté sans possibilité de remise de peine. Kader Traoré, Ouagadougou, pour VOA Afrique.
Nous reviendrons avec Nani Talani sur ses procès en seconde partie de cette édition. Le Sénat des États-Unis a largement approuvé hier le plan colossal d'investissement dans les infrastructures d'un montant de 1200 milliards de dollars. Toutefois, le texte devra encore attendre le vote final à la Chambre des représentants. Jacques Aristide.
C'est la vice-présidente américaine Kamala Harris qui est venue présider la séance d'hier au Sénat, chambre haute, contrôlée par les démocrates. Le projet de loi a été adopté par 69 voix contre 30, avec le soutien de plus d'un tiers des républicains, un fait rare dans un congrès ultra divisé politiquement. Le plan voulu par le président Joe Biden prévoit 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses fédérales dans les routes, les ponts, les transports, mais aussi dans l'Internet à haut débit et pour lutter contre le changement climatique. Avec d'autres financements publics existants, il atteint au total 1200 milliards de dollars. Le projet devra désormais être soumis au vote de la Chambre des représentants où des tiraillements ont émergé au sein de l'étroite majorité démocrate entre l'aile gauche et les centristes. Les négociations s'annoncent donc ardues à la reprise des travaux parlementaires le mois prochain. Quant au Sénat, après le vote d'hier, il se tourne maintenant vers l'examen d'un autre volet majeur du programme de Joe Biden, un plan titanesque pour investir 3 500 milliards de dollars dans les infrastructures humaines, un montant qui est pratiquement l'équivalent en 2020 du PIB produit intérieur brut du géant économique qu'est l'Allemagne.
Le gouverneur de l'État de New York a fini par jeter l'éponge. Andrew Cuomo a annoncé hier sa démission une semaine après un rapport accablant dans une affaire de harcèlement sexuel. Il est accusé par plusieurs femmes. Les détails avec Lionel Gahima.
Andrew Cuomo, 63 ans, gouverneur en place depuis 2011 et réélu en 2014 et 2018, avait été mis en cause pour la première fois en février. Et les témoignages d'anciens employés de son administration ou conseillères se sont multipliés depuis. Étant donné les circonstances, la meilleure manière de vous aider est de me retirer, a déclaré Andrew Cuomo, qui a présenté aussi ses profondes excuses aux femmes qui se sont senties offensées par ses actions. En mars, il avait déjà repoussé les appels à la démission, mais la situation était devenue beaucoup plus difficile pour lui depuis la diffusion, il y a une semaine, de conclusions accablantes d'une enquête demandée par la procureure générale de l'État de New York, Letitia James, qui l'accusait d'avoir harcelé sexuellement 11 femmes et enfreint les lois fédérales et de l'État. Dans la foulée, le président américain Joe Biden l'avait appelé à quitter ses fonctions. Parmi les femmes figurant dans le rapport, une assistante a déposé plainte la semaine dernière, ouvrant la voie à des poursuites judiciaires contre le gouverneur. Gouverneur de quatrième état le plus peuplé du pays, Andrew Cuomo était devenu une vedette nationale au plus fort de la pandémie de coronavirus au printemps 2020 grâce à ses points de presse télévisés quotidiens, vu comme rationnel et rassurant en pleine crise.
Abdelrahman Dia reviendra plus en détail sur la démission d'Andrew Cuomo en seconde partie de cette édition. La Minute Éco, John Linden.
La société ivoirienne Sucrivoire SA, spécialisée dans la fabrication de sucre, versera le 20 août prochain à ses actionnaires un dividende global net d'environ 794 millions de francs CFA au titre de l'exercice 2020. C'est ce qu'annonce, selon Financial Afrique, les dirigeants de cette entreprise basée à Porodou, une localité située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. En RDC, le gouvernement a pris un arrêté annonçant une baisse des prix des billets d'avion dépassant les 40% pour les principaux trajets du réseau domestique. Ceci dans le but de faciliter la mobilité des personnes et de leurs biens. Cette décision, à en croire Financial Afrique, est intervenue à l'issue d'une réunion avec les transporteurs aériens et les membres de la Fédération des entreprises du Congo.
Merci John. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Le Paris Saint-Germain a officialisé hier l'arrivée de la superstar argentine Lionel Messi, qui a signé un contrat pour 2 saisons avec une année supplémentaire en option. La Pulga va porter le numéro 30, comme l'a révélé une vidéo du club, celui qui l'avait à ses débuts en professionnel avec le FC Barcelone entre 2004 et 2006. Les fans parisiens sont très ravis de l'arrivée de la star argentine au PSG.
On compte sur lui pour la Ligue des Champions. Ça fait 2 ans que ça approche et là, on espère que c'est la bonne.
Ça fait des frissons de voir un grand joueur exceptionnel comme lui. Franchement, ça représente l'avenir et je dirais même que grâce à lui, on peut gagner la Ligue des Champions.
Plus de victoires, peut-être champion de Ligue. Je suis très contente et bienvenue Messi.
Le Brésilien Neymar a salué l'arrivée au Paris Saint-Germain de son ancien complice de l'attaque du FC Barcelone. De nouveau réunis, a-t-il écrit sur Instagram, entre 2013 et 2017, les deux joueurs ont formé aux côtés de l'Uruguayen Luis Suarez, l'une des attaques les plus redoutables de l'histoire du football. Ils seront associés cette saison dans un trio tout aussi impressionnant. Si Kylian Mbappé reste au PSG, bien sûr, Lionel Messi va être présenté à la presse ce mercredi. Sur le continent, le Raja de Casablanca continue de perdre ses joueurs cadres. Soufiane Raimi annonce son départ du club sur Aria Dia. Il est temps de m'en aller, soutient l'international marocain, meilleur buteur et meilleur joueur du CHAN en 2020. Il rejoindra le club d'Al Ain aux Émirats Arabes Unis. Avant Soufiane Raimi, c'est l'international congolais Ben Malango qui a quitté le Raja Casablanca pour signer à Strajac FC, toujours aux Émirats Arabes Unis. C'est maintenant clair, Didier Drogba n'est plus membre de l'AFI, l'association des footballeurs ivoiriens. L'ancien capitaine des éléphants a fait savoir sa démission de la deuxième vice-présidence de l'AFI, dont il est membre fondateur. Je viens par la présente vous annoncer qu'il y a quelques semaines, j'ai pris la décision de démissionner de mon poste de vice-président de l'AFI et par la même occasion de son comité directeur, a écrit Drogba sur Twitter. Didier Drogba poursuit en disant que l'AFI n'est pas la propriété d'une personne ou d'un groupe de personnes qui ne servent que des intérêts personnels. Depuis un an, le climat entre Drogba et l'AFI s'est détérioré lorsque l'instance présidée par Cyril Domoro a préféré accorder son parrainage à un autre candidat en vue des élections pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football, indique AfriqueFoot.com. La situation a conduit à la mise en place par la FIFA d'un comité de normalisation qui restera en place jusqu'à l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football prévue en novembre prochain.
Merci Yacouba. monde aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie. Idrissa Sidoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, les autorités affirment qu'au moins 82 anciens combattants de Boko Haram venus du Nigeria et du Tchad, ainsi que leurs familles, se sont rendus au cours de la semaine dernière. Les autorités disent qu'ils sont les derniers en date des centaines de militants islamistes qui ont fait défection depuis mai, lorsque le chef du groupe Aboubakar Shekau a été tué. Le Cameroun envisage d'expulser les anciens combattants du groupe car leur afflux submerge les centres de réadaptation le long de la frontière. C'est un reportage de Moki Edwin Kidzeka de Yaoundé. Le récit est de Rosine Mounezero.
Le gouvernement camerounais a affirmé le 10 août que son centre du Comité national pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration à Méri, une ville du nord à la frontière avec le Nigeria, compte 967 anciens militants djihadistes. Il y a une semaine, il y avait environ 700 combattants de Boko Haram et leurs familles dans le centre. Plus de 260 sont arrivés au cours de la dernière semaine. Parmi eux se trouvent 82 anciens combattants de Boko Haram. Les autres sont des femmes et des enfants. Francis Fayengo est le directeur des centres DDR créés par le gouvernement du Cameroun pour accueillir ces anciens combattants. Il soutient que plus de 200 ex-militants sont nigérians. Il s'est exprimé lundi après que le président Paul Biya l'a envoyé rencontrer les anciens militants et évaluer leurs besoins.
Nous sommes venus voir les combattants, ces jeunes femmes et hommes, principalement composés des Nigérians, abondant dans les camps de Boko Haram dans d'autres pays. Leur nombre augmente chaque jour. Nous les accueillons, mais après avoir fait les vérifications nécessaires, nous les renverrons rapidement dans leur pays en raison des bonnes relations que notre pays, le Cameroun, entretient avec notre pays voisin à l'ouest, le Nigeria.
Yango soutient que plusieurs des anciens militants sont des Tchadiens. Il dit que le président Biya avait fourni un espace et des fonds pour la construction d'un plus grand centre DDR à Mémé, une autre ville du nord non loin du Nigeria. Pour lui, le centre de Méri était trop petit pour contenir le nombre croissant de militants de Boko Haram en fuite. La force multinationale mixte du bassin du lac Tchad qui combat le groupe djihadiste affirme de son côté que les anciens militants se sont rendus aux troupes autour de la forêt de Sambisa à la frontière Cameroun-Nigeria, une zone considérée comme le fief de Boko Haram. Le groupe de travail est composé de troupes du Niger, du Cameroun, du Tchad et du Nigeria. Le Nigeria n'a pas publié de déclaration sur les défections des militants. Le Cameroun dit avoir volontairement remis d'anciens combattants au Nigeria à plusieurs reprises, mais que le nombre de ceux qui se sont rendus cette semaine est le plus élevé. Les autorités du Cameroun disent que depuis mai, date à laquelle le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, a été déclaré mort, le groupe djihadiste Boko Haram et ses combattants sont plus affaiblis et susceptibles de se rendre. Soibou Issa est chercheur spécialiste de Boko Haram à l'université de Maroua. Pour lui, le Cameroun, le Nigeria et le Tchad devraient encourager les combattants qui hésitent encore à se rendre et aider à reconstruire leur communauté. Il affirme que des groupes djihadistes rivaux mènent des actions caritatives autour du bassin du lac Tchad dans le but d'attirer des militants de Boko Haram et de faire en sorte que des combattants rejoignent d'autres groupes terroristes.
Le discours de l'histoire, tel qu'on l'a vu aux abords du lac Tchad, n'est pas que verbal, il n'est pas que cognitif, il s'accompagne aussi des appuis humanitaires, entre guillemets, notamment durant le ramadan dernier, pendant que les organisations internationales faisaient leur distribution, eux aussi, ils faisaient leur distribution.
S'exprimant via la plateforme de messagerie WhatsApp de Maroua, Issa a déclaré qu'il est possible que de nombreux militants veillent se rendre, mais craignent les représailles de la part des combattants djihadistes. Kalbassou Daniel est le président du conseil régional de l'extrême nord du Cameroun ou parti RDPC, créé par le gouvernement pour accélérer le développement local.
Après la paix, il faut le développer. Donc on a des projets, on va travailler ensemble avec le représentant régional ici pour pouvoir voir ce qu'on peut faire pour aider ces jeunes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le Burkina Faso vient d'ouvrir ses premiers procès à l'encontre des djihadistes qui hantent le pays depuis 2015. Depuis lundi, trois suspects sont à la barre, Deux d'entre eux sont d'anciens membres de la police islamique chargés d'appliquer la charia dans le nord du Mali lorsque cette zone était sous le contrôle de ces groupes armés. Quels sont les enjeux d'un tel procès? Pour une analyse, Nanita Lani a joint en France Sédic Abba.
Des combattants djihadistes pris sur les différents théâtres d'opération des forces de défense et de sécurité du Burkina, ou des personnes qui sont suspectées de complicité pour avoir apporté un soutien logistique ou un soutien en renseignement à des groupes terroristes. Ce sont ces personnes-là qui, au terme d'une longue instruction, vont être jugées par les différentes juridictions spécialisées du Burkina en matière de répression du terrorisme.
Que peut-on attendre de ces procès?
Ce procès marque une étape importante parce que jusqu'ici, la lutte contre le terrorisme était plutôt dans sa dimension sécuritaire et militaire. Là, on rentre dans la judiciarisation, c'est-à-dire que les nouvelles lois qui ont été adoptées pour la lutte contre le terrorisme, la spécialisation des magistrats devient totalement opérationnelle. On franchit une étape dans la lutte contre le terrorisme parce que, comme vous savez, on a les différents pays de la sous-région ont été critiqués pour leur absence de justice, leur absence de respect des droits de l'homme. Là, en judiciarisant la répression du terrorisme, on franchit une étape. On devient plus respectueux des lois, on se donne des lois, on fait différemment des terroristes. Là, on rentre dans une où les gens vont être jugés avec des droits de la défense, avec des garanties pour leur défense, avec des avocats qui vont les assister. Ça donne une dimension, ça crédibilise la lutte contre le terrorisme dans la sous-région et ça met en confiance aussi certains partenaires qui jusqu'ici critiquer les exécutions sommaires ou les emprisonnements sur des longues durées sans que les personnes soient jugées. Je pense que ça, c'est une étape importante et ça donne une dimension pédagogique. Ça complète l'arsenal répressif parce que en montrant aux gens que s'ils commettent des actes terroristes, ils peuvent être jugés, ils peuvent être jugés pendant des longues périodes. Je pense que c'est un travail utile et complémentaire à ce qui a été jusqu'ici fait dans la lutte contre le terrorisme, dans la soirée.
Ces procès, quel impact pourrait-il avoir sur la population?
D'abord, le message à l'intention de ceux qui peuvent être tentés de rejoindre le groupe djihadiste en disant qu'ils seront tenus pour responsables, ils seront jugés, condamnés et vont être sans doute à de lourdes peines parce que les peines prévues en matière de terrorisme sont longues, mais aussi vis-à-vis de la population en montrant aux populations que l'État est conscient de leur protection et en plus de la répression, en plus de l'engagement de l'équipement des forces à moyens logistiques, moyens aériens, il y a un national judiciaire, il y a un national juridique qui est mis en place pour lutter contre le terrorisme. Je pense que c'est quelque chose de rassurant envers les populations, surtout si on prend en compte le fait que jusqu'ici, la répression de tout militaire et sécuritaire n'a pas encore donné tous les résultats en associant la dimension justice, la dimension démocratie, parce que qui dit justice, une justice indépendante rendue, dit aussi démocratie. Et ça, ça fait partie du paquet qui va permettre d'éradiquer le terrorisme. Et c'est, à mon avis, c'est quelque chose qui est de nature à rassurer les populations en leur montrant qu'on judiciarise désormais le fait terroriste. On ne considère pas le fait terroriste comme quelque chose comme ça, comme on peut mettre de côté, mais on le met dans l'arsenal judiciaire, on crée des juridictions, des magistrats spécialisés. Ça prouve qu'il y a une volonté de prendre en compte désormais ce phénomène et de lui trouver une solution à plusieurs dimensions. Non pas que ce soit simplement une question militaire et sécuritaire, mais aussi une question judiciaire. Et ça, ça peut rassurer les populations.
Sédic Abba, journaliste et analyste des questions africaines.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Retour au Cameroun pour évoquer le désarroi des communautés du principal village minier du pays, celui de Mali. Il est situé à 507 kilomètres de Yaoundé dans la commune de Bétaré-Oya, région de l'Est près de la frontière avec la RCA. Le village Mali subit le diktat des sociétés minières qui extraient de l'or sans grand bénéfice pour les communautés locales. Reportage sur place de notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
C'est en 2014 que débute une importante activité d'orpaillage semi-mécanisée au village Mali. Depuis 7 ans, le village a vu passer plus de 40 sociétés minières. Le village n'a ni centre de santé, ni courant électrique. Environ 5000 âmes vivent ici et s'approvisionnent en eau dans 4 forages offerts par l'État. L'école, quant à elle, est un don de l'Union européenne. Pour la communauté, les sociétés minières ont plutôt légué des drames à répétition. Rien n'arrête pour autant l'exploitation de l'or. comme ici, à l'autre bord du village Mali. Les engins d'une société chinoise extraient la matière première. Les eaux du fleuve n'ont pas été épargnées par l'orpaillage semi-mécanisé. La couleur des eaux a viré du marron au vert. Les officiels et les autorités de régulation à Bétaré Oya n'ont pas souhaité s'exprimer sur l'exploitation de l'or au village Mali, tout comme les responsables des sociétés chinoises indexées. En l'absence de cahier de charge entre le village et les sociétés minières, hommes, femmes et jeunes du village Mali ont fini par se lancer dans l'orpaillage artisanal pour échapper à la pauvreté, accentuant la déforestation du village.
VOA Afrique en direct de Washington.
Le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, quitte ses fonctions dans 2 semaines. Il a finalement décidé de démissionner après avoir résisté aux multiples appels à son départ. Des appels renouvelés au lendemain de la sortie d'un rapport de la procureure générale de son État appuyant les accusations de harcèlement sexuel lancées par plusieurs femmes. Même s'il reconnaît un comportement inapproprié, Andrew Cuomo continue de rejeter les accusations de harcèlement. Pour une analyse, Abdulrahman Dia a joint à New York le journaliste et analyste politique Dame Babou.
Je pense que les réactions sont similaires à celles que nous avons enregistrées au lendemain de la déclaration du procureur général de New York contre Andrew Cuomo. C'est presque l'unanimité. C'est rare de voir un homme politique de ce niveau et qui avait une grande popularité, surtout après sa manière de gérer la pandémie du corona. Donc, il était très, très populaire. On le voyait déjà comme candidat à la présidentielle et autres. Mais dès que la déclaration avait été faite par le procureur général, c'était l'unanimité sur tous les membres de son parti, sur tous les leaders du Parti démocrate, de la même manière, après sa déclaration aujourd'hui, pour dire qu'il va démissionner dans 14 jours, les réactions sont unanimes. On n'a pas vu un seul partisan de Cuomo qui essaie même faiblement de le défendre.
Alors, est-ce que sa démission est une surprise quand on entend certains médias le présenter comme quelqu'un qui n'abandonne pas la bataille? Est-ce que c'est la pression de ses alliés, y compris le président Biden, qui était trop forte pour lui?
Je pense que ça ne pouvait pas être une surprise parce qu'il lui restait quelques 2-3 jours avant que l'Assemblée locale, le Parlement local de New York, ne décide de le destituer réellement. La procédure d'impeachment, comme on l'appelle en anglais, était déjà entamée. Mais on savait que dans les jours à venir, l'Assemblée et le Sénat local allaient déclencher la procédure qui allait aboutir à sa destitution. Donc la mort définitive de sa carrière politique, mais surtout une grande faiblesse face aux tribunaux, parce que c'est clair qu'on va avoir des procès contre lui, des procès en civil aussi bien qu'au niveau pénal. Je pense que c'est ça qui a été beaucoup plus déterminant que les réactions des hommes politiques, y compris le président Biden. Donc ce n'était pas une surprise, surtout pour les observateurs qui se rendaient compte que tout était déjà fait contre lui.
Et quel est un peu, selon vous, son avenir politique, vu qu'il est issu d'une dynastie qui a régné sur New York pendant longtemps?
S'il avait accepté le lendemain de la publication du rapport, ça donnerait l'impression même d'une acceptation et presque de quelqu'un qui plaide coupable des accusations contre lui. C'est pourquoi il a résisté et il, même dans son discours d'aujourd'hui, on entend l'avocat qui parle, le juriste qui parle beaucoup plus que l'homme politique. Je pense que c'est cette partie qui l'intéresse depuis la publication du rapport. Mais son retour en politique, bon, on ne dit jamais en politique, mais vraiment c'est très très difficile.
C'était notre confrère Dame Babou, joint à New York. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA.